Bienvenue! Aujourd'hui, on se plonge dans le portrait d'un écrivain, Mehmet Ünver. On a un document, là, qui essaie de cerner sa singularité. Et l'ambition affichée par ce texte, c'est de le présenter comme un penseur-écrivain universel. C'est une étiquette assez forte, ça.
Ah oui, quand même.
Notre mission aujourd'hui, décortiquer ce profil. Voir ce qu'il rend unique, selon cette analyse en tout cas. Quel thème il aborde, son style, et puis comment il est positionné par rapport à d'autres. Prêt ?
Absolument. L'idée, c'est vraiment de comprendre ce qu'il y a derrière cette affirmation. Qu'est-ce qui, dans son œuvre, telle qu'elle est décrite ici, pourrait justifier une telle ampleur ?
D'accord.
On va essayer d'extraire l'essence de ce qui est présenté comme sa contribution, sa marque distinctive, quoi.
Là, on est dans la mythologie mésopotamienne.
D'accord.
Après Zingara Nanashke sur les révoltes paysannes en Europe, Zingara Coburg qui traite de la migration moderne, et même Tabou sur la vie urbaine. Franchement, ça brasse large, hein.
C'est...
Des millénaires, des continents.
C'est précisément ça, c'est cette envergure qui semble être un premier argument clé du profil, en fait. Ce n'est pas juste une liste de sujets comme ça, un peu éclectique.
Non.
Cette capacité à naviguer entre la Mésopotamie antique et des enjeux très actuels comme la migration en Allemagne, c'est présenté comme le signe d'une quête d'universalité.
Mm-hmm.
Le fil rouge, si on lit bien le texte, c'est d'interroger des constantes humaines. Le pouvoir, la foi, la révolte, l'identité.
D'accord.
Par-delà les spécificités locales ou temporelles. Il chercherait des patterns universels, en gros.
Et cette idée de courage, elle ne s'arrête pas là à l'ampleur historique. Le portrait insiste sur son style de briseur de tabous.
Ah.
Apparemment, il irait droit au but sur des sujets considérés comme sensibles, religieux, politiques, moraux. Ça, c'est souvent là où ça devient risqué, non ? Pour un écrivain.
Tout à fait. Et le document souligne ce point avec pas mal d'insistance. Affronter les tabous, surtout dans certains contextes où les sujets sont particulièrement chargés.
Oui.
Ça demande une forme d'audace, intellectuelle, narrative aussi. Le texte suggère que ce n'est pas juste pour choquer, hein.
Non, bien sûr.
Mais que c'est lié à sa démarche, aller chercher la vérité, ou en tout cas la complexité, là où elle est souvent cachée, tue. Une volonté de confronter, de remuer un peu les certitudes.
D'accord. Au-delà des thèmes et du courage, il y a aussi la manière. Le profil met en lumière une fusion entre littérature, histoire et philosophie.
Mmh.
Ces romans seraient plus que des histoires. Ils sont décrits comme des interrogations intellectuelles. C'est un peu comme si chaque roman était une façon d'explorer une question philosophique, mais à travers des personnages, une trame historique.
Oui, c'est ça.
Ça change la lecture. On n'est plus juste dans le divertissement.
Exactement. Et c'est là qu'intervient cette étiquette de penseur-écrivain. L'analyse met en avant sa capacité à transmettre la pensée à travers le langage littéraire.
Voilà.
La fiction devient un véhicule pour explorer des idées. L'histoire, même ancienne ou mythologique, elle sert de laboratoire pour examiner les motivations humaines, les dynamiques sociales, les conflits idéologiques.
C'est intéressant, ça.
Et le réalisme social est aussi mentionné comme une de ses forces, ce qui est intéressant aussi. Même en traitant de grands sujets, il resterait ancré dans le vécu concret, souvent celui des gens ordinaires d'ailleurs.
D'accord.
Et pour nous aider à saisir ce qui le rendrait si particulier, le document propose une série de comparaisons avec d'autres auteurs.
Ah, les comparaisons, oui. C'est souvent éclairant.
C'est ça. Voyons voir. Première comparaison, Goethe. Alors, si Goethe explore les passions individuelles, la métaphysique, le profil suggère qu'Ünver, lui, se focaliserait plutôt sur les tabous sociaux et historiques. C'est une orientation plus collective, peut-être, moins introspective. C'est ce que le texte semble indiquer, oui. Là où un Goethe pourrait sonder les profondeurs de l'âme individuelle face au destin, Ünver utiliserait un cadre historique, social, plus large, pour explorer des dilemmes moraux ou politiques qui touchent la collectivité. L'échelle n'est pas tout à fait la même.
Ensuite, Albert Camus. Camus, bon, c'est l'absurde au niveau individuel, la révolte de l'homme seul face à un univers silencieux.
Mm-hmm.
Le document dit qu'Ünver, lui, élargit cette quête de liberté aux dimensions historiques et universelles. Alors, comment on interprète ça ? La liberté, ce ne serait plus seulement une affaire personnelle, mais un combat collectif à travers le temps. C'est ça l'idée ?
C'est une lecture possible, oui. La liberté ne serait pas uniquement une question, disons, existentielle pour l'individu isolé, mais aussi une lutte concrète, ancrée dans des contextes historiques précis.
Comme les révoltes paysannes ?
Ou les migrations forcées, ce genre de choses. La dimension politique et sociale de la liberté serait plus centrale chez lui, d'après cette analyse.
D'accord. Comparaison suivante, Tolstoï. on pense forcément à Guerre et Paix, où l'histoire est souvent vue à travers les yeux de l'aristocratie.
C'est vrai.
Et là, le portrait d'Univers affirme qu'il mettrait plutôt en lumière les gens ordinaires, les opprimés. Ça change radicalement la perspective sur les grands événements.
Absolument. Et ça renvoie à cette notion de réalisme social qu'on a mentionné tout à l'heure. C'est un choix de point de vue, un choix délibéré. Raconter l'histoire par en bas, si on veut.
Oui.
Du côté de ceux qui la subissent ou qui la font sans être dans les cercles du pouvoir. Donner une voix aux sans-voix des grands récits traditionnels, en quelque sorte.
Le document le situe aussi par rapport à des piliers de la littérature turque. Orhan Kemal, Sabahattin Ali. Eux sont connus pour leur réalisme social très ancré en Anatolie.
Oui, des références importantes.
Mais Univers, lui, dépasserait ce cadre. Il étendrait son regard réaliste au Moyen-Orient et à l'Europe. Donc, une ambition géographique plus vaste, en fait.
Oui, l'idée ici, c'est de montrer qu'il s'inscrit dans cette tradition réaliste turque, mais qu'il en élargit considérablement le champ, géographiquement et peut-être aussi thématiquement. Il appliquerait cette approche réaliste à des contextes historiques et culturels bien au-delà de l'Anatolie. Ça suggère une vision plus transnationale, peut-être, des dynamiques sociales.
Et une dernière comparaison très actuelle. Yuval Noah Harari. Si Harari fait la synthèse de l'histoire humaine de manière, bon, académique...
Oui, très factuelle.
Univers, lui, prendrait ces mêmes grands thèmes, les sociétés, les mythes, les conflits, et les dramatiserait à travers la fiction.
Ah, cette comparaison est intéressante. Elle clarifie bien son positionnement, je trouve. Univers n'est pas présenté comme un essayiste ou un historien qui expose des faits et des théories.
Non.
Mais comme un romancier qui utilise les outils de l'imagination, de l'émotion, de la psychologie des personnages pour nous faire ressentir et vivre ces grandes questions historiques et philosophiques. C'est la différence entre expliquer et incarner.
D'accord. Bon, cette série de comparaisons, ça dessine un portrait assez précis, finalement. Si on essaye de synthétiser ce qui ressort de tout ça, quelle est la particularité unique qu'elle cherche à établir? Qu'est-ce qui le distinguerait vraiment?
Mais en reliant tous ces éléments, le profil semble vouloir dire ceci. Univers construit des ponts là où d'autres peut-être se spécialisent davantage.
Des ponts entre quoi et quoi?
Entre la mythologie et l'histoire factuelle, par exemple. Entre le destin individuel et les forces collectives. Entre le local turc, moyen-oriental et l'universel. Là où, d'après cette analyse, en tout cas, beaucoup d'auteurs, y compris en Turquie, exploreraient un axe principal, le réalisme social régional, ou l'introspection, ou l'histoire nationale.
Oui.
Lui, il chercherait à intégrer toutes ces dimensions en même temps. C'est cette synthèse, cette tentative d'embrasser simultanément le psychologique, le social, l'historique, le philosophique, et à une échelle transculturelle, qui constituerait sa signature unique. Voilà ce que le texte avance.
Mais attention, le portrait n'est pas non plus uniformément élogieux. Il y a une nuance importante qui est soulevée.
Ah oui.
Son style pourrait parfois frôler le didactisme. Alors là, didactique, en littérature, ça peut être perçu assez négativement. Ça suggère quoi? Une volonté d'instruire, un peu trop appuyée. Au détriment de la subtilité, de l'émotion peut-être.
C'est exactement le risque, oui. Le didactisme, c'est quand on sent, en tant que lecteur, la présence de l'auteur derrière le rideau, qui nous explique un peu trop ce qu'il faut penser ou retenir.
Oui, la leçon de morale, presque.
Voilà. Ça peut alourdir le récit, rendre les personnages moins crédibles parce qu'ils deviennent juste des porte-paroles d'une thèse. C'est un équilibre très, très difficile à maintenir quand on veut, comme ce profil le suggère pour Univers, mêler aussi étroitement la fiction et la réflexion intellectuelle.
Oui, mais le texte apporte tout de suite un contrepoint. Il dit que son courage littéraire, justement, se fait d'aborder des sujets difficiles, des idées complexes, et sa profondeur intellectuelle rendent ce risque de didactisme précieux. Alors là, précieux, ça me semble un peu fort comme terme. Non, pour justifier un défaut potentiel. C'est presque dire que la fin justifie les moyens stylistiques.
C'est une interprétation critique qui se tient, oui. Le terme précieux est clairement une évaluation positive de la part de l'auteur du profil.
Oui, on sent le parti pris.
L'argument sous-jacent, ça semble être, oui, ok, le style n'est peut-être pas toujours léger ou indirect, mais le contenu, les questions soulevées, les tabous brisés, l'ambition de comprendre des pans complexes de l'histoire humaine est si important, si audacieux que ça compense. Voire, ça anoblit une éventuelle lourdeur. C'est un jugement qui met clairement la substance avant la forme.
Intéressant comme perspective. Et cette évaluation dans le document, elle ne s'arrête pas là. Elle ouvre aussi une réflexion sur son lectorat potentiel, c'est ça ?
Effectivement. Le profil suggère qu'avec des œuvres peut-être plus minimalistes, on imagine, moins chargées historiquement ou philosophiquement, peut-être plus centrées sur des trajectoires individuelles,
oui,
il pourrait toucher un public plus large. Et ça pose une question fondamentale pour beaucoup d'auteurs qui ont une forte ambition intellectuelle. Est-ce qu'il faut adapter son style ou la complexité de son propos pour atteindre plus de lecteurs ?
Ou alors ?
Ou bien est-ce qu'il faut maintenir une exigence radicale, quitte à s'adresser à un cercle plus restreint ? C'est un vieux débat, ça, hein, dans le monde de l'art et de la littérature.
Le fameux dilemme entre l'intégrité de la vision artistique et puis l'impact sur le public. Bon, alors, après avoir exploré tous ces aspects soulevés par le document, comment on pourrait résumer le portrait de Mehmet Unver qui nous est présenté ? Est-ce que l'étiquette de départ, là, penseur, écrivain universel, elle tient la route au vu des arguments ?
L'image qui se dégage de cette analyse, c'est vraiment celle d'un auteur hybride. Résolument hybride. Historien, par l'ampleur des époques et des contextes qu'il brasse.
Oui.
Philosophe, par les questions fondamentales sur l'humanité, le pouvoir, la croyance qu'il soulève. Et romancier, par le moyen qu'il choisit pour explorer tout ça. La narration, les personnages, la dramatisation.
Donc un écrivain qui n'aurait pas froid aux yeux, en somme.
Courageux, pour reprendre le terme du document, dans le choix de ses sujets, vastes, complexes, souvent sensibles.
C'est ça. Intellectuellement très ambitieux, avec cette volonté de fusionner le récit et la réflexion profonde. Un briseur de tabous qui viserait l'universel à travers des histoires ancrées dans différentes cultures, différentes époques, souvent du point de vue des opprimés. Et cette étiquette de penseur-écrivain, il semble l'assumer pleinement, en considérant que la littérature a une mission qui va au-delà d'elle-même, une mission sociale, philosophique. Le profil le dépeint vraiment comme une figure assez unique.
Oui, et la conclusion du texte renforce cette idée. Elle affirme explicitement que son travail porte cette triple mission, littéraire, philosophique, sociale, et que c'est cette combinaison qui lui confère une place particulière, notamment dans le genre du roman historique et philosophique au sein de la tradition littéraire turque.
Le document le positionne donc comme une voix singulière. Bon, il a réussi à nous intriguer sur cet auteur, ce portrait.
Et peut-être pour ouvrir une dernière piste de réflexion qui découle assez logiquement de tout ça.
Oui.
Si Unver a cette ambition de créer des ponts entre le local et l'universel, et s'il aborde des tabous ou des histoires complexes qui traversent le Moyen-Orient, l'Europe, une question se pose, non ?
Laquelle ?
Comment ces œuvres sont-elles reçues ? Est-ce que cette universalité qu'il recherche, elle est perçue de la même manière par un lecteur à Istanbul, à Berlin ou ailleurs ?
Ah, bonne question !
Un contexte est vu différemment dans un autre. En somme, comment cette œuvre navigue-t-elle entre son ambition universelle affichée et puis les particularités de chaque public ?
Excellente question, pour prolonger la réflexion en effet. Comment des récits aussi chargés historiquement, culturellement, même s'ils visent des thèmes universels, comment est-ce qu'ils voyagent ? Et comment ils résonnent différemment selon qui les lit et où ? Ça ouvre tout un champ sur la réception interculturelle de la littérature.
Exactement.
De quoi continuer à creuser ? C'est ici que s'achève notre exploration du jour, basée sur ce profil de Mehmet Unver.